Ce matin, on continue dans l'épître de Jacques, comme on l'a mentionné. Alors, tournez avec nous, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans l'épître de Jacques. Je vous encourage à les lire. On a encore 3 semaines dans cette lettre-là. Alors, prenez le temps d'aller lire cette lettre pendant la semaine. C'est bref, 30 minutes, 60 minutes, vous passez à travers, d'accord? Dans les 2 dernières semaines, Jacques nous a parlé de notre cœur. Il s'est vraiment concentré sur notre cœur pour nous montrer que le cœur du combat se situe justement dans le cœur du chrétien, d'accord? Et ce qu'on vit, les épreuves, tout ça, révèle beaucoup sur ce que nous sommes. Maintenant, on l'a dit depuis le début, Jacques n'a pas grand-chose à faire du blabla de la vie chrétienne, de la théorie. Jacques va nous pousser à l'action dès maintenant jusqu'à la fin de la lettre. Et donc, ensemble, on va voir ce matin que l'Évangile de Jésus-Christ nous pousse à l'action, nous pousse à aimer, nous pousse à donner aux pauvres, aux démunis, à ceux qui sont délaissés. Et on va voir ça ensemble ce matin. Alors, courbons-nous dans un mot de prière avant d'écouter la parole de Dieu. Père éternel, on veut disposer nos cœurs. Ce matin, tu vas nous parler, Seigneur, de nous encore. Tu vas nous parler de nos cœurs, mais tu vas nous parler, Seigneur, de nos vies. Tu vas nous parler de notre témoignage, tu vas nous parler de ce qui se voit, de cette foi invisible, comment elle se traduit dans le monde visible. Alors, je te prie, Seigneur, de nous disposer à écouter ta parole, à recevoir cette parole, Seigneur, et à repartir ici, non pas comme des auditeurs oubliés, Seigneur, mais comme ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui en ont été transformés. Viens, Seigneur, t'adresser à chacun d'entre nous, personnellement, afin de nous montrer ce que tu veux voir changer dans nos vies, les consolations que tu veux nous apporter à chacun d'entre nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter Danny nous lire la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Jacques, au chapitre 2, les versets 1 à 26, dans l'édition Louis II. Alors, Jacques, au chapitre 2, les versets 1 à 26. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Merci, Danny. Ce matin, avant d'aller vers l'exposé biblique, on a une petite vidéo pour vous. On va regarder ça ensemble. Et regardez bien, la générosité vient des fois de personnes qu'on ne soupçonnerait pas.
How you doing, man? Is it okay if you could spare that slice for me, please?
Ah, man, I work for the drug. Yeah. White trash, you got more than me, man.
Really? Hi, how you doing, man?
What's up, man?
Can I please have a slice? I'm very hungry.
I'm sorry, but I can't. Not today.
All right, sorry for asking. Enjoy your slice, huh? Look, excuse me. Can I have an extra slice? I'm hungry.
No. Fuck out of here. I'm hungry too. Fuck out of here. You got true religions on and Nike? Fuck out of here. Get a fucking job.
Sorry for asking. What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, slices. You want the rest? All right, here you go, man. All right, take care, buddy. Hello, how you doing? I'm really hungry. It's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah, you sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. I know how you feel, man. It sucks. I really thank you. Thank you so much. Well, I'm gonna get going. Thank you once again. I appreciate it so much. I want to, being so generous to me, I want to give you a nice little tip, man. Thank you. God bless you, all right?
Intéressant, hein? Est-ce que vous auriez partagé votre point de pizza? Votre deuxième point? Pendant que vous aviez de l'argent encore dans votre porte-monnaie. Sans même réfléchir, cet homme-là partageait probablement de tout ce qu'il y avait. Parce que son cœur est à la bonne place. Jacques nous dit à la fin du chapitre 1, il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Ce matin, on va voir ensemble que la foi en Jésus-Christ pousse à l'action, à l'amour, à l'accueil des pauvres, des démunis et des délaissés. Le favoritisme du chrétien. Le favoritisme du chrétien. Vous savez que je pense que c'est dans notre nature humaine de faire preuve de favoritisme, de juger les gens dès le premier regard. On se fie énormément à l'apparence et Jacques nous parle dans ce passage, il nous parle du favoritisme du monde. Alors commençons par là, un tout petit peu plus loin dans notre passage, au verset 5. En fait, commençons un peu plus tôt, au verset 2. Supposez qu'il entre dans votre assemblée, votre grande assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. On parle du visuel. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez bien le verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Jacques nous parle de ceux qui sont pauvres aux yeux du monde. Vous savez, la pauvreté, souvent ça se voit, des fois ça se sent, souvent ça se ressent. Souvent c'est subtil, c'est dans un regard, il y a toutes sortes de pauvreté. Bien sûr, il y a la pauvreté matérielle, j'ai besoin de manger, mais il y a toutes sortes d'autres pauvretés aussi. De la détresse psychologique, de la fragilité intérieure qui fait que je ne suis pas équipé pour faire face à la vie, un héritage familial qui fait que je pars hypothéqué dans la vie et je dois redoubler d'efforts pour arriver à peu près à la même qualité que bien d'autres gens. Il y a des études extrêmement sérieuses qui démontrent que si tu viens au monde dans tel ou tel secteur d'une ville, quel que soit ton statut, tu es né dans ce secteur-là, les probabilités dans cette population-là que tu deviennes criminel ou que tu demeures dans la pauvreté sont beaucoup plus élevées parce que la pauvreté, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est un phénomène social, d'accord? Et donc, la pauvreté prend toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Et notre société se donne des causes pour être sensible à la pauvreté. On peut dire qu'on vit à une époque où être sensible, prendre soin des pauvres, dans notre contexte social en plus, social-démocratie, tout ça, on cherche une certaine équité. Il y a cette sensibilité-là, on l'entend constamment parler. Dans les semaines qui vont venir, on va atteindre un sommet dans les médias de sensibilité à la pauvreté en préparation pour Noël, non? Constamment, on va en entendre parler. Donc, il y a une certaine sensibilité. Mais généralement, lorsque la société fait quelque chose pour les pauvres, elle fait d'eux une cause. Les pauvres deviennent une cause. Et on veut s'occuper d'eux. Ce n'est pas le cas selon Jacques dans l'Église. Pour Jacques, l'absence de favoritisme, l'accueil, l'ouverture, quelle que soit ta condition sociale, va de soi avec la foi. Et s'il y a donc un favoritisme en général dans la société qui veut que par motif de bonne conscience, on se donne toutes sortes de causes pour prendre soin des pauvres, ça ne devrait pas être le cas dans l'Église. Ça devrait aller de soi, selon Jacques. Il en relève de la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, selon Jacques, commande qu'il n'y ait pas de favoritisme. C'est vraiment drôle, lorsque j'étudiais le passage, j'étais là, puis tu lis le passage, lorsque tu le lis attentivement, tu as le goût à un moment donné d'aller t'asseoir avec Jacques puis dire, tu dis qu'il ne faut pas faire preuve de favoritisme, mais moi, il me semble que ce qui transpire de ton texte, et peut-être vous l'avez ressenti aussi juste dans la lecture tout à l'heure, il me semble que toi, tu fais preuve de favoritisme envers les pauvres. Et donc, si le monde a généralement... C'est notre nature, n'est-ce pas? On a tendance à faire preuve de favoritisme. La semaine dernière, je vous ai parlé de Mario. Vous vous rappelez de Mario? Je ne sais pas si Mario arrivait ici ce matin, puis il se présentait à côté de vous, puis il disait, écoute, peux-tu me faire une petite place? Est-ce que vous auriez exactement le même égard que si c'était un crotté qui arrivait ici, qui sentait mauvais? Ou peut-être vous seriez plus motivé avec le deuxième, je ne sais pas. Cédez votre place. Si le monde en général fait preuve de favoritisme, c'est dans notre nature, c'est la nature humaine qui veut cela. Jacques nous dit que ça ne doit pas être comme ça dans l'Église. Puis j'arrive ici, puis je lis le texte, puis je regarde Jacques, puis il me semble que je vois du favoritisme dans le texte, du favoritisme envers les pauvres. Et c'est pour ça qu'on parle du favoritisme du chrétien. Parce qu'à travers toutes les Écritures, on perçoit une espèce de favoritisme de la part de Dieu. C'est comme s'il est en train d'attaquer un mal en étant plus ferme encore. Qu'est-ce que Jacques nous dit sur les riches? Jacques a un préjugé sur les riches, puis c'est pas juste ici qu'on va le voir, on va le voir plus loin dans la lettre. Mais il dit au verset 5, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre? N'est-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux? » Et puis Jacques va revenir avec ça. Jacques a un préjugé contre les riches. Il fait preuve de favoritisme envers les pauvres parce que la réalité, effectivement, à l'époque déjà, lorsque les chrétiens étaient persécutés, c'était fait par les puissants, ceux qui avaient les ressources pour le faire. Alors, qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire sur sa vision du pauvre et du riche? Est-ce qu'il est en train de dire que tous les riches, il les met tous dans le même panier? Pas du tout. Dans ses illustrations qu'il va donner un tout petit peu plus loin, il va mettre côte à côte Abraham, un entrepreneur énormément riche pour son époque, comme un modèle, et Rahab, une prostituée, qui n'était certainement pas très riche. Et donc, Jacques n'est pas en train de dire que tous les riches sont dans ce camp-là, mais Jacques est en train d'illustrer quelque chose qu'on voit à travers toutes les Écritures. Dieu a un certain penchant, je dirais, pour les pauvres, les faibles, les démunis. Et donc, lorsque Jacques nous dit à la fin du verset 1, lorsqu'il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves qui, à l'époque et bien souvent encore aujourd'hui, vont justement être des gens qui ont moins de ressources. » Ce thème-là est déjà présent à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et Dieu se dit le protecteur de la veuve et de l'orphelin. Parce que Dieu est en train de combattre un mal social. L'être humain n'est pas impartial. L'être humain est partial. On juge à l'œil, on juge à l'odeur, on juge au regard les gens autour de nous. Et donc, Jacques est en train d'illustrer cette réalité-là. Vous savez que l'histoire centrale de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un Dieu qui a aimé des pauvres. Il n'y a pas plus pauvre, j'espère qu'on va s'entendre, qu'un esclave, que quelqu'un qui n'est même pas propriétaire d'une maison, pas propriétaire d'une voiture, pas propriétaire d'une grosse calèche avec 6 chevaux, qui n'est pas propriétaire de sa propre personne. C'est pas un homme libre, c'est pas un citoyen libre. L'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un Dieu qui a aimé des esclaves, un peuple d'esclaves dans un pays qui était riche, qui est allé les faire sortir de cette pauvreté pour les conduire dans l'abondance. C'est ça l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu a un faible, Dieu a un penchant pour les pauvres, les faibles, les démunis. Je vous lis un passage de l'Ancien Testament. Un passage fondateur pour le peuple d'Israël. Dans Deutéronome 10, versets 17 à 19, vous pouvez le prendre en note. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. » En d'autres mots, il n'y a pas d'autre Dieu en comparaison avec l'Éternel, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme, exception de personne, qui ne reçoit point de présents. On ne peut pas acheter les faveurs de Dieu avec notre argent et nos richesses, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Et Dieu donne ce commandement à Israël. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous aimerez les pauvres parce que vous avez été pauvres. Vous aimerez les démunis parce que vous avez été démunis. Vous allez vous rappeler d'où vous venez. Vous allez vous rappeler de votre condition première. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de faire de la pauvreté une cause. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est constitué de pauvres. C'est vrai sur le plan spirituel, j'y viens. Mais c'est vrai à travers toute l'histoire de l'Église. Vous savez que dans l'Église en général, à travers tous les temps, le pourcentage d'individus qui composent une Église, le pourcentage de pauvres, de pauvreté à l'intérieur d'une Église est toujours plus élevé que dans la société en général. Toujours, systématiquement, à travers toute l'histoire de l'Église. Ah, les sociologues pourraient se pencher là-dessus et dire, on sait bien, c'est les simples, c'est ceux qui embarquent dans ça. Oui, il y aurait une autre analyse à faire aussi. Peut-être que les riches n'ont pas besoin de Dieu. Et peut-être que ça, c'est vrai aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une analyse sociologique pour associer la richesse et l'arrogance? Ce serait intéressant, ça, comme étude à faire. Hein? Et donc, à travers toute l'histoire de l'Église, l'Église a toujours eu davantage de pauvres. J'ose espérer, je veux croire que la raison première pour cela, c'est que l'Église de Jésus-Christ sait d'où elle vient, connaît sa propre histoire, est composée de gens qui ont ressenti leur propre pauvreté. Et donc, c'est une Église qui dépose un regard sans favoritisme, mais au contraire, accueillante. Accueillante. Parce qu'on doit se rappeler d'où l'on vient. Parlons de spiritualité un instant. C'est impossible. C'est impossible de devenir vraiment chrétien si tu ne réalises pas que tu es complètement démuni spirituellement. Tant que tu te regardes dans le miroir le matin et tu dis « Man, moi je suis un king. » Je pense que n'importe qui voudrait m'avoir dans son équipe. C'est impossible que tu deviennes chrétien. C'est absolument impossible. Parce que le plus beau message de l'histoire de l'humanité ne peut pas trouver de place dans ton cœur, ne peut pas se rendre à ton cœur. C'est du roc, c'est de la pierre, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Il n'y a pas de place pour que l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu viennent se déposer dans ce cœur-là. Et donc, lorsqu'un individu, lorsqu'une personne se convertit, devient chrétien, croit dans l'Évangile, passe par l'expérience de la nouvelle naissance, c'est qu'à un certain moment donné, il y a un miroir qui est placé devant ses yeux, le miroir de la parole de Dieu, le miroir de l'Évangile qui est placé devant lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il est complètement démuni spirituellement, qu'il n'y a pas de justice propre, quelles que soient tes richesses. C'est pour ça que Jacques va dire que le riche, en venant à l'Évangile, a été humilié. Il y a une humiliation pour le riche dans sa conversion parce qu'il réalise que tout ce qui lui donnait de l'assurance n'est pas suffisant pour avoir une véritable assurance devant Dieu. Ça ne suffit pas. L'Église, par définition, à cause de notre foi en Jésus-Christ, l'Église doit être l'endroit où il n'y a pas de favoritisme. Au contraire, si on en a un à avoir, c'est celui de Dieu, c'est celui de Jacques qui dit « Faites pas preuve de favoritisme. Maintenant, les riches, aidez les pauvres. » Et donc ça ne doit pas être dans l'Église. Ça ne doit pas être là. Faire preuve de favoritisme, ne pas prendre soin du pauvre qui vient vers nous, ce n'est pas une question de religion pour Jacques. Regardez bien le lien entre le chapitre 1 et le chapitre 2. C'est super important. Pour comprendre pourquoi c'est une question de foi, cette affaire-là, ce n'est pas juste une question de pratique religieuse. Au verset 27, il nous dit la religion. La religion, c'est quoi? C'est l'ensemble des comportements, l'ensemble des attitudes, l'ensemble des agissements qui découlent de mon amour pour Dieu. C'est ça, la religion. Alors souvent, évidemment, on va parler de fausse religion, on va parler d'être religieux, quelqu'un qui est pieux, qui est une grenouille de bénitier. C'est cette vieille expression-là qui, peut-être, dans le fond, ne vit pas vraiment tout ça. Mais Jacques nous dit non, il y a une véritable religion, il y a un vrai sentiment religieux qui est attaché à Dieu et qui conditionne, qui instruit, qui induit toutes sortes de comportements, d'attitudes qui découlent de cette foi-là. Et il nous dit donc la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter l'orphelin. Puis lorsqu'on arrive au chapitre 2, verset 1, il dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Pour Jacques, ne pas faire preuve de favoritisme, mais être accueillant, ce n'est pas une question de religiosité, de comportement religieux. C'est une question de foi en Jésus-Christ. Faire preuve de favoritisme, ne pas prendre soin du pauvre qui vient vers nous, ce n'est pas une question seulement de religion. Au verset 1 du chapitre 2, Jacques dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Ma foi en Jésus commande, exclut tout favoritisme. dicte que mon cœur soit réceptif. Qu'est-ce que Jésus a de si glorieux? Quel est le moment, le summum de la gloire de Jésus-Christ, dites-moi? C'est la croix. C'est sa mort sur la croix, c'est sa résurrection. Ma foi en Jésus-Christ, c'est ma foi en un Dieu qui avait tout, qui avait absolument tout, qui était riche, qui était bien dans ça, parce qu'il possédait tout. Il était le créateur de tout, il était dans une communion parfaite, et il a délaissé cela pour venir vers des pauvres. Il est venu se dévêtir lui-même de toute cette richesse pour venir nous aimer, pour venir se donner pour nous. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » La gloire de Jésus-Christ est qu'il a aimé les pauvres que nous étions, jusqu'à tout donner ce qu'il avait pour que nous devenions riches. Et c'est ça qu'on veut être comme Église. Un peuple de Dieu qui n'oublie pas d'où il vient, qui n'oublie pas son Seigneur. On est là, on s'assemble le dimanche matin, on chante des louanges, on élève le nom de Jésus-Christ, on se rappelle son amour pour nous. Et Jacques me dit, à cause de ça, à cause de tes louanges, à cause de ta foi, parce que tu as saisi Jésus-Christ, le favoritisme au milieu de vous, c'est impossible à concevoir. Ça ne peut pas aller ensemble. Commencer à juger les gens sur leur apparence comme le vieil homme le fait, comme la société le fait, comme c'est tellement facile de le faire, c'est inacceptable au milieu de vous. La vision qu'on s'est donnée comme Église, c'est qu'on veut être une Église centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque je retourne à l'Évangile de Jésus-Christ, lorsque je retourne à la croix, lorsque je retourne à ma foi en Jésus-Christ, ça change ma manière d'être. Ça change ma manière de me comporter, de regarder les gens autour de moi. Notre vision, qu'est-ce qu'elle dit? Une Église centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ, une famille qui marche tout près de Dieu et qui déborde d'amour, de générosité pour son prochain. Et c'est qui mon prochain, nous a dit Jésus? C'est celui qui, par réflexe, n'aurait pas le goût d'aller le voir. Tu n'es pas attiré vers lui. Alors, qu'est-ce que Jacques nous donne comme remède? Bien, il nous rappelle la loi royale, tout simplement. Verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Et donc, Jacques est simplement en train de nous dire, « Aime toutes les personnes que Dieu place sur ton chemin. Aime-les sincèrement comme tu t'aimes toi-même. » Et je sais, il y a toute une grande question, « Oui, mais si je ne m'aime pas moi-même? » En principe, tu as déjeuné ce matin, puis si je mets un gâteau sur la table, tu vas penser à t'en couper un morceau. Puis, tu vois, fait même s'il y a des choses à régler dans ton histoire personnelle qui fait que tu n'es pas bien dans ta peau, soit, ça fait partie de ce que Christ vient transformer dans nos vies. En même temps, la première personne à qui je pense le matin, c'est à moi. Et souvent, la dernière personne à qui je pense le soir en m'endormant, c'est quand même à moi. Même si c'était pour gratter mes bobos, je serais encore en train de penser à moi. Et donc, ce que Jacques est en train de me dire, c'est pense aux bobos des autres aussi. Va vers eux, accueille-les. C'est la loi royale, tout simplement. Et c'est ça qu'on veut vivre comme Église. L'Église doit être la place où toutes ces formes de pauvreté auxquelles je faisais référence tout à l'heure, toutes ces formes de pauvreté sont accueillies, on prend soin sans favoritisme. Jacques a vraiment une vision de la loi qui est 100% complémentaire avec ce qu'on retient souvent de Paul. Lorsqu'on va lire les écrits de Paul, souvent on voit la loi puis on dit « OK, la loi a servi à quoi? » La loi dans l'Ancien Testament servit à quoi, nous dit Paul? C'est un professeur, c'est un pédagogue qui nous montrait notre incapacité d'y obéir parfaitement. Tu lis l'Ancien Testament, tu lis la loi de l'Ancien Testament, tu es constamment confronté à toi-même, puis à un moment donné, tu te dis, « Mes amis, c'est impossible de vivre cette affaire-là, je suis toujours en échec constant. » C'est ça qu'on retient essentiellement de ce que Paul enseigne sur la loi. Mais en même temps, après ça, qu'est-ce que nous dit Jacques? Jacques nous dit, « Oui, mais attends un petit peu. Tu as été aimé maintenant, tu as reçu la miséricorde, tu as reçu la grâce. Tu as reçu la grâce, tu as reconnu que tu ne pouvais obéir à la loi parfaitement. Maintenant, la loi, c'est quoi pour toi? C'est une loi de liberté. C'est une loi de liberté parce que maintenant que j'ai été gracié, je peux commencer à m'inspirer, à m'instruire de cette loi-là. Voyez-vous, dans l'ordre, dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu ne leur donne pas la loi avant la liberté, c'est vrai? Dieu les libère. Il ne s'en va pas les voir dans leur esclavage, puis là, leur dire, OK, là, vous êtes vraiment dans une mauvaise position, les boys. Je pense que vous auriez besoin d'un gars comme moi qui intervienne. Fait qu'on va faire quelque chose, je serais vraiment intéressé d'être votre Dieu, prendre soin de vous. Je vous donne mes 10 commandements, je vous donne les lois, vous observez ça pendant 20 ans. Si vous faites une bonne job, je viens vous sauver. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Pas ça qu'il a fait. Il les a libérés. Il leur a fait grâce. Il leur a fait grâce. Puis il les a conduits au désert. Puis là, il leur a dit, « OK, maintenant, je vous livre à vous-même. » C'est à peu près ça l'histoire de l'Ancien Testament. C'est un peuple qui est rebelle, qui veut continuer à être livré à lui-même. Ça aurait été cruel de la part de Dieu de les faire sortir de l'esclavage en Égypte pour leur dire, « OK, vous êtes libres maintenant, faites ce que vous voulez. » Ça aurait pris 2 jours. Sortent les poignards, commencent à se planter ça dans le dos. C'est ça qui se passe. Alors, il leur donne une loi de liberté, une loi parfaite. Et si elle est observée, elle est conduite dans cette liberté d'amour, de partage, où on prend soin les uns des autres. C'est ce que Jacques est en train de nous dire ici. Un petit peu plus loin au chapitre 2, il dit, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Vous avez été pardonnés, vous avez été libérés, vous avez maintenant la liberté de faire le bien, de vous inspirer de toute cette loi. » Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et on a des échos ici des enseignements de Jésus. Pardonne à ton frère si tu veux être pardonné. Et donc, tout ce que Jacques est en train de faire, il est en train de nous rappeler, vous avez été gracié. Vous avez reçu la miséricorde de Dieu. Maintenant, librement donné, faites miséricorde, partagez. Et c'est ce qu'on veut être concrètement comme Église. On veut accueillir. On veut accueillir, soyons concrets, le dimanche matin, lorsque les gens viennent ici. Vous voyez des gens qui sont des visiteurs, qui peut-être, vous voyez dans leur regard, puis ils cherchent un peu où ils s'en vont. Vous connaissez le bâtiment ici, allez les voir, allez les saluer, allez leur demander si vous pouvez les aider. Les jeunes, je pense à nos jeunes, aux ados, vous connaissez mieux que toutes les gens qui font l'entretien ici. Vous avez exploré, je sais, les caves, le sous-sol, tous les coins du bâtiment. Vous savez où est-ce qu'ils sont, toutes les cachettes dans le bâtiment. Vous voyez quelqu'un qui arrive ici, il cherche, c'est où la pouponnière? Allez-y. Quel témoignage de voir un jeune, un ado qui s'en va vers quelqu'un qui dit, est-ce que je peux vous aider? Vous avez l'air de chercher quelque chose. Wow, quelle grâce, quel accueil, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça qu'on veut faire. Vous voyez des gens qui veulent s'asseoir, puis on commence à être un petit peu tassés ici. Comme je vous dis, si c'était Mario, je pense que vous le feriez tout de suite. Mais non, on est l'Église de Jésus-Christ. Et donc, on veut le faire pour tout le monde. On veut accueillir. Quand vous préparez votre repas du dimanche, pourquoi pas en préparer un petit peu plus? Puis juste être disponible. Peut-être que Dieu va mettre quelqu'un sur votre chemin ce dimanche-ci que vous allez pouvoir inviter tout simplement, tout bonnement. « Hey, ça tente-tu de venir dîner chez nous? » On va faire connaissance ensemble dans nos petits groupes. Lorsque je dirige un petit groupe, il y a une règle qu'un groupe de quartier que je communique à tout le groupe. La dernière chose que vous avez à faire lorsque vous voulez inviter quelqu'un, c'est de me demander la permission. Surprenez-moi, invitez du monde qui ont besoin de s'intégrer dans un groupe. Soyons accueillants dans nos groupes. C'est ça qu'on veut être comme Église. On veut être sensible. Le temps des fêtes arrive. Ça peut être au travail, ça peut être un geste tout simple. Juste être attentif à toutes ces expressions-là de pauvreté, d'un besoin de solitude, d'isolement. Et simplement poser un geste pour être un parfum de Christ, tout simplement. Avec vos voisins, avec le voisinage, organiser quelque chose pour le voisinage. Pendant les fêtes, inviter des gens qui sont en train de s'intégrer ici à l'Église. Voyez-vous, c'est ça qu'on veut être comme Église, on veut être accueillant. Et si vous voyez quelqu'un qui, justement, selon toute probabilité, va tomber en défaveur aux yeux du monde, c'est pas lui qui va être invité dans le temps des fêtes, c'est pas lui qui va être invité ce midi à dîner. Parce que et voilà, c'est celui-là que Dieu veut que vous invitiez. Ce sont des petits gestes, un à un, qui transforment une église et cette église-là ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça qu'on veut être, n'est-ce pas? L'Église qui ressemble à Christ, on ne veut pas simplement faire du blabla sur la foi, on veut vivre cette foi-là concrètement. Et cela se fait d'un millier de manières différentes. Et oui, on a un ministère bouffe pour tous, oui, on peut mettre en place des choses intentionnelles, mais ça, c'est des outils. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est une culture. C'est une culture d'Église, une culture qui est évangélique, une culture qui est inspirée de notre foi en Jésus-Christ, parce qu'on se rappelle d'où on vient. C'est ça qui va faire toute la différence dans l'Église. Et oui, il y aura des bouffes pour tous. Oui, il y aura des ministères d'entraide. Oui, il y aura des ministères Barnabas. Oui, il y aura des choses parce que dans une grande assemblée, peut-être que, oups, on verra pas un besoin puis on va être intentionnel. Oui, oui, oui. Mais c'est la culture générale de l'Église qui vient faire la différence. La jeunesse, vous voyez un jeune, puis il veut s'intégrer. Allez-y, allez-y, allez le voir, invitez-le. Vous savez que vous sortez pendant la semaine, vous allez voir un film, toute la gang. Appelez-le, invitez-le à venir. Parce qu'on veut être accueillant en Jésus-Christ. On veut être accueillant en Jésus-Christ. On veut être accueillant en Jésus-Christ et parce qu'on veut vivre une vraie foi. Jacques admet que notre foi, c'est dans l'invisible. On croit dans l'invisible. Jésus, moi, il ne m'est pas apparu. Je n'ai pas eu le privilège de Thomas de mettre ma main dans mes doigts dans les trous de ses mains. Mais je crois en lui profondément. Ma foi dicte tellement de choses dans ma vie, m'inspire, me conduit. Mais c'est invisible. Et Jacques croit dans une foi dans l'invisible qui devient extrêmement visible. Et ça, c'est super important pour Jacques. Dans cette deuxième portion du passage, Jacques va dire, si tu dis que tu as la foi, mais que ça ne se traduit pas en action, tu devrais craindre pour ta foi. Si tu dis que tu as la foi, mais tes enfants qui t'observent ne peuvent pas détecter des indices de cette foi-là, les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas voir ça, quelle espèce de certitude peux-tu avoir? Tu es un théoricien. C'est pas vrai qu'on peut croire en Jésus puis ça change rien dans ma vie. Ça change des choses dans ma vie. J'ai une sœur tellement gentille qui m'a demandé dernièrement, elle dit, Yannick, tu nous dis souvent que tu es colérique. Tu nous dis souvent que tu es colérique. Ça fait comme des années que je t'entends dire ça. Mais Jésus, il te change-tu un petit peu? Ah, je dis, oui, je suis désolé, je devrais vous dire tout ça aussi. Hein? C'est vrai. Oui, il me change beaucoup. Ma foi dans l'invisible doit devenir visible, c'est fondamental. Jacques en a rien à cirer du blabla de la foi qui ne se traduit pas en action. Il dit, cette foi-là n'est pas meilleure que la foi des démons. Ah, les démons ont la foi, hein? Ils voient l'invisible que nous, on ne voit pas pour eux. Ce n'est pas la foi dans l'invisible pour eux, c'est la foi dans le visible. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Très lucides, très conscients, ne craignent pas Dieu du tout, par contre. Mais lorsque ma foi ne se traduit pas en action, j'ai l'équivalent de la foi d'un démon. Il est tough, Jacques, hein? C'est comme, OK, t'as la foi d'un démon, copain. Parce que Jean dit que si tu as la foi, ça va se traduire en action. Abraham avait la foi, Dieu lui a lancé un défi pas mal bizarre. Tu vas prendre ton fils, tu vas me l'offrir en sacrifice, tu as prié pendant des années pour l'avoir, puis c'est tellement une belle histoire qui préfigure Christ, le Père qui allait donner son fils, tout ça, c'est une histoire extraordinaire. Mais c'est drôle, hein? Dieu qui lisait le cœur d'Abraham lui a fait passer un test visible sur sa foi. Rahab, la prostituée, a posé un geste qui en disait énormément sur sa foi. Les gens qui sont autour de nous peuvent nous entendre annoncer l'Évangile. Ils ont besoin aussi de voir que l'Évangile nous a transformés. Les gens autour de nous peuvent nous entendre, tes enfants peuvent t'entendre prêcher l'Évangile, mais il se peut qu'à travers un témoignage qui n'est pas concordant avec l'Évangile, tu attaques le nom de Jésus-Christ. Tu transmettes le message, tu communiques que c'est une affaire d'hypocrite, cette affaire-là. Et donc, je veux le faire pour affirmer ma propre foi, pour affirmer mon assurance, pour dire ma vie est en train de se transformer petit à petit. Oui, c'est vrai, Jacques nous parle de perfection. On est en route, les amis, OK? Mais c'est censé se traduire par ces gestes-là qui, progressivement, manifestent une croissance dans ma foi. Alors, je veux le faire pour affirmer ma foi, rassurer ma foi, m'assurer que je suis vraiment là, je suis solide, je suis bien là. Je suis bien ancré en Jésus-Christ. Mais je veux le faire aussi pour les gens qui sont autour de moi, qui m'observent. Et vous savez quoi? Je suis vraiment, 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 vraiment reconnaissant que Jésus n'en soit pas resté à du blabla. Lorsqu'il était au ciel, dans l'éternité, avec son Père, puis en train de dire, « Ouais, ça va virer mal, cette histoire-là. » Puis on pourrait faire des choses pour eux, ce serait cool, ce serait hot, ce serait quand même un bel acte. On y repense. Quand même vraiment reconnaissant au Seigneur qu'il soit venu s'incarner sur la terre, qu'il ait accepté d'être méprisé par les hommes, qu'il soit arrêté, qu'il se livre lui-même, qu'il soit pris par les Romains, qu'il soit battu de verges, qu'il soit pendu au bois et qu'il accepte volontairement tout ça. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur qu'il n'a pas été simplement un théoricien dans sa foi, mais qui a mis ça en pratique pour mon salut. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas de salut pour vous et moi. Il n'y aurait pas de salut pour vous et moi. On a la foi dans l'invisible, mais cette foi-là, nous dit Jacques, doit devenir extrêmement visible. Extrêmement visible. On n'a pas besoin de programme pour prendre soin des pauvres. On n'a pas besoin de programme pour accueillir les gens. Bien sûr, on va faire des choses intentionnellement. Mais comme culture d'Église, on est appelé à être des gens qui accueillent, qui ont le cœur ouvert, qui ne jugent pas sur l'apparence, qui ne jugent pas sur le potentiel des gens, qui ne jugent pas sur les ressources que les gens ont, mais qui, au contraire, se rappellent de leur histoire et se font un point d'honneur d'accueillir, d'aimer. Et Jacques nous dit, allez-y, arrêtez de parler, passez à l'action. Arrêtez de parler, commencez à faire quelque chose. Alors cette semaine, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de chercher de petits gestes. Vendez pas votre maison tout de suite, vendez pas votre voiture. Ça peut être pratique pour recevoir pendant les fêtes, c'est quand même l'hiver, il va faire froid. Comprenez? Des fois, on s'est comme, ben oui, c'est ça, Yannick nous a dit qu'il fallait tout changer, notre vie au complet, puis, oh, c'est lourd, c'est gros, cette affaire-là. Non! Petit geste. Concret, discuter en famille, en couple, tout seul, avec des amis, planifier des petits trucs, une disposition, une attitude, un regard, une invitation, une sensibilité, un coup de téléphone. Hey, comment ça va? Ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille prendre un café? C'est la première fois que je vous vois ici. Qu'est-ce que vous diriez de venir manger chez nous un jour? Ah, ça vous adonne cette semaine? Ben, qu'un coudon. J'ai une portion de plus juste pour vous. Cette semaine, je vous mets au défi de commencer à changer cette culture-là dans les petits groupes, dans les ministères, dans nos foyers, dans notre cœur, afin d'avoir cette attitude-là sans favoritisme. On va passer ensemble à la louange. Et j'aimerais ça qu'à travers les cantiques, à travers les chants, on invite Dieu à continuer à nous parler. Vous savez, le ministère de la parole, c'est quelque chose qui se passe premièrement entre Dieu et celui qui va apporter le message de la parole. Moi, je m'en vais avec les Écritures, puis avec des commentaires, puis j'écoute d'autres enseignants, puis j'étudie pour comprendre, puis j'invite Dieu à me parler à moi, à mon cœur, à moi. Puis ensuite, je viens ici le dimanche matin, puis je vous partage ça. Je vous livre ça. Après ça, ce n'est pas simplement entre vous et le texte, parce que l'Esprit-Saint est là tout le long. Il a travaillé dans mon cœur et il est là pour travailler dans le vôtre. Et chacun d'entre nous, lorsqu'on part, lorsqu'on quitte ici le dimanche matin, l'appel qui est placé devant nous, c'est d'aller puis dire au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ce texte-là dans ma vie maintenant? » Il y avait plein de choses et il y aurait eu encore tellement d'autres choses à sortir juste de ce passage-là. Ce matin, j'aurais pu passer 2 heures encore, Dieu merci, je ne le ferai pas. Mais je pars avec ça, puis je m'en vais dans la prière, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Et clairement, Jacques nous dit, passez à l'action, cherchez un geste, une attitude, une chose à faire concrètement pour grandir comme Église et être une Église qui vit centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ à cause de la gloire d'un Seigneur qui s'est dépouillé lui-même, qui est venu mourir sur la croix pour des pécheurs, des pauvres comme vous et moi. Seigneur Jésus, nous venons devant toi dans la prière ce matin, Seigneur, parce qu'on a besoin que le ministère de la parole ne s'arrête pas à entendre. Jacques nous met tellement en garde d'être des auditeurs oublieux. Et Seigneur, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce que Jacques nous dit ce matin, c'est que l'Évangile nous instruit, nous inspire, nous éclaire, nous enseigne à ne plus faire preuve de favoritisme, Seigneur. Mais il y a toutes ces luttes, ces combats en nous entre le vieil homme et l'homme nouveau créé en Jésus-Christ qui regarde sans favoritisme, qui accueille, qui donne, qui partage, qui ouvre son foyer, qui ouvre son agenda, qui fait du temps pour toutes ces opportunités, tranquillement, une à la fois. Seigneur, nous voulons être cette Église qui change bouleversée par l'Évangile de Jésus-Christ. Viens nous transformer, Seigneur, et fais de nous une Église accueillante. Accueillante, remplie d'amour, poussée à l'action, généreuse, pour les pauvres, les délaissés, les démunis, Seigneur. Ouvre nos yeux, notre cœur et nos mains. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.